Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et voilà, revenu en ce mois de décembre, l'envie furieuse d'aller faire un petit tour au Musée de la Romanité avec Cécile Carrier. Bonjour Cécile.
Bonjour Martine, bonjour à tous et à toutes.
Alors nous continuons notre petit périple, enfin c'est pas un petit, c'est un grand, et nous allons devoir ouvrir l'œil, enfin nos auditeurs, lorsqu'ils iront aussitôt l'émission passée au Musée de la Romanité, il faudra qu'ils aillent comme une chasse au trésor,
oui,
repérer tous ces éléments de la domus, de la décoration, car nous continuons à imaginer comment était décorée cette domus.
Et voilà, tout à fait, nous en sommes à la quatrième partie hein, de ce décor qui est quand même assez riche, hein, comme on a pu le voir. Et aujourd'hui, on va parler d'éléments peut-être pas très connus par le grand public, le décor sculpté et le décor posé. Alors, c'est des mots bizarres, mais on va regarder ça en détail. Alors moi, je vous propose de commencer par le décor suspendu, qui est le plus couramment découvert sur les sites. On va parler de ce qu'on appelle les oscillas. Au singulier, ça s'appelle un oscillum. Sachant que les savants ont mis dans ce mot de oscillum plusieurs objets qui ont une fonction très proche et une structure proche, mais qui peuvent se décomposer en trois familles, en fait. Je vais essayer de faire attention de ne pas mélanger les mots. Un oscillum, en fait, c'est un petit objet décoratif qui est suspendu par l'intermédiaire d'un crochet avec des chaînes entre deux éléments, de murs, de colonnes.
Et ça peut être aussi à l'extérieur.
Et c'est surtout à l'extérieur, pour la plupart. On en trouve dans les maisons, hein, c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on en a trouvé aussi dans les théâtres et dans quelques amphithéâtres aussi.
Et dans les jardins aussi.
Alors évidemment, dans les jardins, dans les péristyles, ça fait partie de... Et dans l'atrium de la maison, hein, puisque partout où il y a des colonnes et...
Et un peu de vent pour faire bouger.
Alors du vent, peu. Mais surtout l'espace, parce que l'intérêt de ces objets, c'est qu'ils sont visibles des deux côtés. C'est une plaque, en fait, qui est sculptée des deux côtés, on y reviendra. Et donc l'intérêt, c'est de trouver un endroit où il peut être visible, évidemment, des deux côtés. Alors sachant qu'il y a généralement un côté qui est plus en relief, celui qui est généralement du côté jardin quand ils sont au niveau du péristyle, et un côté plus plat, hein, presque incisé, on appelle ça le méplat, qui est peint et qui sert entre guillemets de tableau. Voilà. Et donc évidemment, l'intérêt, c'est d'en avoir toute une série sur l'ensemble de l'entrecolonnement, bien entendu.
Et il faut imaginer, alors j'ai parlé du vent, du bruit, mais des jeux de lumière aussi.
Des jeux de lumière sur, sur les marbres, sur les pigments.
Si vous voulez en avoir une idée d'une manière, j'allais dire, vivante et quotidienne, au Jardin antique méditerranéen à Balaruc, oui, où ils ont reconstitué l'univers total du jardin, il y a effectivement très fréquemment ces oscillas.
Voilà, on en voit aussi sur des anciennes photos de Pompéi. Maintenant, je crois qu'ils les ont enlevés dans la plupart des sites pour les protéger, ce que l'on peut comprendre. Mais dans les anciennes photos, on voyait qu'ils les avaient laissés en place. Justement, on voit bien ce système de crochets avec des chaînes qui permet de les maintenir, en fait.
Et justement, à Pompéi, elles avaient été replacées lorsqu'on a découvert Pompéi.
Je suppose que ça n'était pas resté en place. Je ne pense pas.
Voilà.
Je ne pense pas, mais c'était très explicite, justement, pour les visiteurs de l'époque. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on voit ces plaques comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Quand on n'est pas au courant, c'est vrai qu'on peut comprendre que c'était très pédagogique de les avoir remis en place. Donc, il faut les imaginer, évidemment, qu'elles sont en hauteur. Hein. Elles ne sont pas à hauteur... elles sont au-dessus des têtes, bien entendu. Je n'avais pas précisé, mais... voilà. Quand on étudie ces plaques, on se rend compte qu'il y a des thèmes qui sont vraiment récurrents, qui sont surtout le théâtre et tout le cortège dionysiaque. Dionysos et tout son cortège. Et il y a aussi pas mal d'animaux parce qu'il y a des mini-scènes de chasse. Comme ce sont des petits objets, en fait, les motifs qui sont dedans sont des motifs que l'on retrouve sur d'autres supports. C'est vraiment... un peu comme des pochoirs, on va dire, sont des éléments qui sont interchangeables et avec lesquels on peut composer une scénette ou mettre l'élément tout seul, il se suffit.
Et ce sont des éléments qui devaient être familiers à tout le monde.
À tout le monde, exactement. Voilà. On retrouve ce genre d'images, par exemple, sur les lampes à huile, qui sont aussi des petits oui. formats, et on va retrouver un peu le même genre de motifs.
Alors, format, ça donne quoi à peu près ?
Alors, la moyenne est autour d'à peu près 30 cm de diamètre. Et il en existe des plus petits, on en a un à Nîmes qui fait 10 cm. Donc là, il est vraiment dans du petit format, mais en général, c'est une moyenne autour de 25-30.
Et alors, ceux qui se trouvent au musée de la Romanité, on ne les a pas tous trouvés au même endroit, j'imagine ?
Non, on les a retrouvés à différents endroits, dans des domus, en fait, pour la plupart. Effectivement. Donc, ça, c'est vraiment dans le thème de notre émission aujourd'hui. Alors, on en a trouvé à Nîmes. On a trouvé 7 éléments répartis dans les 3 familles dont je parlais tout à l'heure. En Arbonnaise, c'est-à-dire le sud de la France, en gros, on en a trouvé une cinquantaine. Et sur l'ensemble de l'Empire, on en a trouvé environ 500. Et ça, ce sont des chiffres un peu anciens qui datent de 2005. Donc peut-être qu'entre-temps, on en a trouvé. Donc,
ça me semble pas beaucoup.
Sachant que les territoires sont assez restreints, on en a principalement dans les Gaules, en Italie, un petit peu en Espagne, un tout petit peu en Afrique et encore pas beaucoup, et quelques-uns en Grèce qu'on a retrouvés. C'est pas tant que ça hein, sur l'ensemble.
Non. C'est vraiment... Mais de toute façon, ce sont des objets très fragiles. Et dès l'instant qu'ils tombent...
Mais ils se mettent en pignettes.
Voilà,
ouais, comme ils sont tout petits, en plus. Et en plus, ça a une durée de vie très courte. Hein. On en trouve au 1er siècle. Un petit peu au deuxième siècle, après ça s'arrête.
Oui, voilà. Oui.
Donc c'est aussi un objet de courte... Oui, ça a été une mode de courte durée. Donc c'est ce qui explique finalement... Enfin, 500 en même temps sur l'ensemble
c'est pas beaucoup.
De quelques pays. Que, finalement, c'est... Ouais,
c'est dérisoire.
C'est dérisoire. Donc on va passer dans le vif du sujet par typologie maintenant. Donc on va commencer dans les oscillas. Je vous ai dit qu'il y avait 3 familles. Et la première famille qui a donné son nom à la grande famille, c'est l'oscillum. Lui-même. Donc l'oscillum lui-même, quand on parle de l'objet, c'est une plaque circulaire qui le différencie des deux autres qui ont une autre forme. Alors, je n'ai pas précisé, ils sont en marbre. Hein. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est du marbre.
Ah, tous en marbre.
Oui, c'est vraiment une production italienne principalement.
Mais alors, il fallait en effet que la tâche soit solide, parce que le marbre, c'est lourd. Hein.
Assez lourd, oui. Pour des petits objets comme ça, c'est assez lourd. Mmh. Oui. J'ai pas pensé à regarder les poids, parce qu'on les a pesés, certains. Il faudra que j'y pense. alors, dans le musée, on en a qui sont exposés. Le premier auquel je pense, c'est celui qui est exposé dans la fameuse vitrine du décor privé. Au niveau de la mezzanine du cubiculum de Brignon. On a parlé de pas mal d'objets qui sont dans cette vitrine. Et donc, il représente d'un côté, alors le côté qui est exposé, puisqu'il y a un côté forcément qu'on ne voit pas, le côté qui est exposé, on voit 2 masques de Silène, un masque de Silène, un masque de Satyre qui sont juxtaposés. Ces masques peuvent... Et
donc c'est la thématique dionysiaque. Hein.
Voilà, ça rappelle la thématique dionysiaque, la thématique du théâtre, bien entendu, puisque c'est lié. Hein.
Oui.
Et ça rappelle surtout les masques qui étaient portés lors des grandes fêtes dédiées aux dieux, bien entendu. Donc là, on voit que sur cette face-là, c'est très en relief, hein, surtout le masque de Silène. Et sous les masques, vous avez les instruments de musique caractéristiques du cortège dionysiaque. Donc le tambourin et la syrinx, hein, qui sont caractéristiques, la syrinx notamment de Pan, qui est un des membres du cortège. Et de l'autre côté, qui n'est pas visible et qui est pourtant intéressant, on a un masque d'une ménade qui est coiffée de la fameuse coiffe caractéristique des Bacchantes, le Térystion, donc qui est un voile un peu à l'égyptienne, on va dire, et qui est noué sur le dessus de la tête. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, cette face-là. Et ce qui est intéressant pour celui-ci de oscillum, c'est que ses caractéristiques rappellent d'autres oscillas trouvés ailleurs, sur d'autres sites, et on pense qu'ils viennent tous d'un même atelier. Donc, manifestement, il y avait des ateliers avec des styles et des techniques bien particulières qu'on arrive un petit peu à cerner.
Alors, la couleur, qu'est-ce qu'on peut...
Alors, nous, malheureusement, ils n'en ont plus de couleur, mais on sait qu'effectivement, ils pouvaient avoir des pigments. Oui. D'ailleurs, la face en méplat servait vraiment de tableau, hein, de décor, comme nous, on ferait un tableau.
Parce que là, vous avez amené, pour qu'on puisse accompagner l'émission, des images, et j'observe que ce n'est pas toujours la même teinte.
Alors ça, c'est une question de conservation. Parce qu'en fait, certains ont subi des aléas à cause du métal qui s'est altéré, donc le métal du crochet,
et, oui, forcément.
Et qui a coulé sur la pierre, donc qui fait des taches orangées.
Oui, on voit des taches,
voilà,
en effet.
Mais qui en fait sont uniquement... Et l'autre, le deuxième dont on va parler maintenant, en fait, il est encore très encrassé puisqu'il n'a pas subi un nettoyage conséquent. Donc en fait, il a encore un peu de couleur ocrée de la terre. Mais ils sont en fait en marbre blanc, de beau marbre blanc en général. Mais voilà, donc au jour d'aujourd'hui...
Et l'atelier dont vous parlez, est-ce qu'on l'a
non,
localisé?
Non, on l'a pas localisé, non, malheureusement. Alors le deuxième...
Il se trouve au même endroit aussi?
Alors il se trouve non, dans la vitrine sur le théâtre, au niveau de l'architecture publique, parce qu'il a bien fallu répartir les œuvres. Étant donné qu'on en a trouvé aussi dans les théâtres, je me suis dit que ça peut être aussi une bonne idée. Et comme c'est aussi un masque, je me suis dit que ça rappelait aussi les masques. Donc j'ai proposé à l'époque d'en mettre un dans cette vitrine sur le théâtre. Alors c'est celui-ci qui est petit, qui est d'un format beaucoup plus petit que d'habitude. Il fait 10 cm de diamètre, donc c'est assez peu courant.
Et là, on est sûr, parce qu'il y a des orifices pour l'accrocher, on est sûr que c'est bien...
Oui, il a bien son crochet sommital. Donc là, on n'a pas d'hésitation sur la fonction. Puis de toute façon, je ne vois pas comment on pourrait le faire tenir, puisqu'ils sont circulaires. Donc là, on est bien sur un décor suspendu. Alors, sur celui-ci, qui a été trouvé rue Rouget de Lille, donc en plein quartier d'habitat à l'époque antique. Donc là, on est sûr de sa provenance, ce qui n'est pas le cas du précédent, d'ailleurs. Sur celui-ci, donc, on a un masque de théâtre Dionysac, avec un beau silène, avec une belle barbe. Et devant lui, devant sa tête, il y a un cantar hein, qui est symbolique du vin de Dionysos. Et de l'autre côté, on a une syrinx et un bâton de berger. Là aussi, ça rappelle évidemment Pan, qui porte toujours ce pédum, on appelle ça, dans notre jargon.
Ben, nous allons peut-être marquer une petite pause avant de revenir admirer et peut-être s'imaginer qu'on entend le vent dans ces eaux-ci-là. À tout de suite,
à Cécile. À tout de suite.
Deuxième partie de l'émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus avec Cécile Carrier qui nous fait le plaisir de nous apprendre encore une fois à bien regarder les œuvres au Musée de la Romanité.
Eh bien, nous venons de voir donc l'oscillum de forme circulaire et nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle le pelt. Ça fait partie des décors suspendus, mais il a une forme semi-circulaire avec deux pointes aux extrémités et une pointe centrale. Et son nom vient d'un bouclier de type oriental de l'époque grecque. Et donc, on lui a donné ce nom de pelte.
Mais c'est plus rare, ça.
C'est beaucoup plus rare. On n'en a qu'un au musée. Et en plus, bon, malheureusement, il n'est pas exposé. C'est dommage. Mais je voulais quand même en parler, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas courant. Alors, le nôtre est vraiment très sobre. Il a juste un petit décor de volute et une petite perle centrale. C'est tout ce qu'il y a. Mais la surface du demi-cercle est lisse, hein, donc, on en a un exemplaire un petit peu abîmé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'est pas exposé, parce qu'il est vraiment, le pauvre, en piteux état. Mais voilà, ça c'était un objet qu'on peut retrouver aussi, équivalent de l'oscillum qu'on a vu circulaire.
Et alors, il se trouvait où à Nîmes, celui-ci ?
Alors, celui-ci, il n'a pas de provenance, malheureusement. C'est dommage, mais bon, il est forcément nîmois, hein, vu son état, il n'a pas pu voyager dans cet état-là.
Et alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a pas encore exposé.
Il est vraiment fragmentaire. Donc, quand c'est vraiment trop fragmentaire, c'est difficile d'exposer des objets comme ça. C'est dommage. On en aurait eu un peu plus complet, c'était plus explicite. Là, en l'état actuel, il n'est pas très explicite.
Et alors, moi qui n'en ai jamais vu, à quel endroit, dans quel autre musée pourrions-nous en voir ?
Alors, j'en connais beaucoup à Pompéi. Il me semble que j'en avais vu à Vaison-la-Romaine, mais je ne sais pas s'ils sont exposés. Parce que comme évidemment, moi je travaille beaucoup en réserve, je ne me rends pas bien compte si les objets sont exposés ou pas. Parce que je sais qu'on a retrouvé pas mal d'oscilla en général, c'est-à-dire toutes les trois familles confondues à Avezon. Mais là, je ne me souviens pas. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent en Arles, je crois qu'ils n'en ont pas non plus. Et je ne crois pas qu'à Narbonne, ils en aient d'exposés non plus.
Non, je ne me souviens
c'est
pas en
rare,
avoir vu.
Hein, pour trouver, ouais, hein. Ouais. C'est assez rare. Je ne sais pas si j'ai les chiffres là, du nombre de peltes trouvées, mais... nous, ici, on n'en a qu'un, donc déjà, ça, on se rend bien compte que c'est assez rare.
Mais ça peut vouloir dire que c'est rare parce qu'on en a trouvé peu, mais aussi qu'il y en avait peu.
Il y en avait peu, voilà. Oui. Je pense que ce n'était pas la forme la plus facile à orner, je pense, puisqu'on est dans un demi-cercle. Donc, pour composer une scène, ce n'est pas pratique.
Ni même à accrocher pour qu'elle soit en équilibre.
C'est ça, il faut vraiment bien que le crochet soit bien centré et que la pierre soit bien équilibrée pour que le pelt fasse vraiment son beau demi-cercle avec sa pointe bien centrale.
À moins qu'il soit prévu pour balancer comme ça.
Je pense pas, parce que ce qu'on a trouvé apparemment, si j'ai bien compris, le crochet vraiment sur la pointe centrale.
D'accord.
Et donc, la troisième famille des oscillas, c'est ce qu'on appelle le pinax, au pluriel pinaques, et c'est ce qui a donné le mot pinac, je vais y arriver, pinacothèque chez nous.
Voilà.
Voilà, c'est en fait un tableau de forme quadrangulaire et qui, lui, n'est pas suspendu, mais posé. C'est-à-dire que là, on passe sur des objets posés.
Ça veut dire qu'il y a un petit socle
En fait, on les mettait sur des piliers hermaïques. On va en reparler plus tard, des piliers hermaïques. On le posait sur un support, effectivement, à hauteur humaine, on va dire, pour qu'on puisse admirer le motif. Et donc, c'était peint, hein, comme le mot veut bien le dire. Donc, on en a pas beaucoup, on en a que deux, je crois. Oui, on en a deux, nous, non, trois au musée. C'est pas non plus la forme la plus courante, mais elle est plus courante que le pelt quand même. Et bon, malheureusement, celui qui est exposé donc dans la vitrine théâtre, il est un peu abîmé, hein, on voit pas le motif complet, loin s'en faut.
Mais il est très beau, je trouve.
Il est beau, hein, ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien. Donc on a un masque de théâtre, alors là on voit bien le masque de la Nouvelle Comédie, probablement ce qu'on appelle le Oulos Neaniskos, c'est-à-dire le jeune homme arrogant. Et de l'autre côté, on a un monstre marin, style Kétos, on ne sait pas trop, un triton.
Ça, c'est moins évident à identifier.
Non, il est fragmentaire, donc on voit juste la queue la fin de la queue triangulaire qui le caractérise, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident à identifier pour le visiteur. Mais je crois que de toute façon, il est exposé côté masque, puisque on est dans la vitrine sur le théâtre.
Sur le théâtre, oui.
Voilà. Donc voilà les trois grandes familles d'oscilla, l'oscillum, le pelt et le pinax. On a vu.
Alors, ce volet refermé, ouvrons un autre avec les masques.
Avec les masques de théâtre. Puisque, en fait, les masques qui donc étaient portés lors des
représentations
ont servi de modèle pour sculpter des masques en pierre qui servaient de décor. Alors, certains sont suspendus. Donc, celui qui est exposé, pareil, dans la vitrine du théâtre, qui a un visage de femme un petit peu à moitié cassé sur la gauche, celui-là était suspendu, effectivement. Mais d'autres, en fait, servaient d'éléments d'ornementation à des sculptures en ronde-bosse. Ça pouvait servir de support à des muses, à des représentations de muses, par exemple, ou d'Apollon. À ce moment-là, on avait un masque au pied de la statue, ou alors on avait un pilier qui servait de support à la statue, et au sommet du pilier, on mettait une sculpture de masque. Évidemment, moi, je ne peux pas toujours vous dire, puisqu'on a
donc
pas
ça avait une vertu pédagogique, en quelque sorte.
Oui, voilà, exactement. Mais ça fait partie du mobilier décoratif de la maison, sous format suspendu ou en accompagnement d'une statue d'une muse ou d'une divinité liée au théâtre. Le masque qui est exposé, qui est un des plus complets, hein, on en a 5 exemplaires au musée, et c'est le seul qui était suspendu. Les autres font probablement partie d'une statue. Donc c'est pour ça que celui-là est intéressant, hein, c'est notre seul suspendu. Et il représente donc un masque de théâtre pareil de la Nouvelle Comédie, et probablement du personnage de la courtisane. On la reconnaît à sa chevelure très apprêtée, à son petit ruban qui était probablement coloré. Voilà.
Et est-ce qu'on sait où elle a été trouvée?
Alors, non, malheureusement, non. C'est dommage parce qu'il est très bien conservé et c'est notre seul exemplaire suspendu. C'est un de nos exemplaires les mieux conservés en plus. Donc
et donc là, comme on est dans la décoration de la Domus, ça ne peut pas être dans un théâtre. Non.
Ben là, je ne sais pas, puisque moi, je le mets là pour la Domus parce que je sais qu'on en trouve dans les maisons. Donc là, j'en parle effectivement de façon logique, mais celui-ci, ça se trouve, il était dans le théâtre de Nîmes, mais j'en sais rien.
D'accord.
Là, malheureusement, je n'ai aucune indication vraiment du tout.
Très bien. Alors, poursuivons notre petit parcours.
On parlait tout à l'heure, avec le Pinax, des piliers hermaïques et des piliers tout court. Et donc là, on va passer sur justement ce décor posé avec le pilier hermaïque. Alors, c'est les
alors,
auditeurs...
Alors, pilier voilà. Et pas colonne. Hein.
Oui, pilier. Nous sommes bien d'accord, c'est pilier, pas colonne. Le pilier hermaïque... en fait, c'est une forme de pilier, mais qui se rétrécit plus on va vers la base. On en voit beaucoup, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que ça s'appelle comme ça. On en voit qui supportent des portraits d'hommes célèbres. On en voit alors au musée, je sais qu'au niveau du rez-de-chaussée, là où il y a le legs de l'Antiquité, on a un portrait en buste hermaïque d'Auguste Pelé qui est posé justement sur un pilier hermaïque.
D'accord.
Voilà, donc c'est assez caractéristique. Alors, la création vient des Grecs, hein, c'est une forme très ancienne. Elle permettait de représenter le dieu Hermès.
Et c'est celui qu'on trouve au carrefour aussi. Alors
C'est tout à fait ça. En fait, pourquoi c'était dans les carrefours? C'est parce que le dieu Hermès était le protecteur des voyageurs et des routes. Et on le trouvait donc...
Et des voleurs aussi.
et des voyageurs. Et en fait, on le trouvait, on trouvait sa représentation. Donc, on n'avait que la tête qui était posée sur un pilier hermaïque. Et donc, le mot hermaïque vient d'Hermès. Mmh. C'est parce que ces piliers, autrefois, représentaient Hermès. Et c'était le Hermès ancien, archaïque, c'est-à-dire barbu, pas le jeune homme tel qu'on le voit plus tardivement à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ces piliers donc, étaient dans les carrefours de rue, dans les carrefours de route, mais également dans les entrées de ville ou les entrées de rue, au niveau des portes, ce qu'on appelle des propylées. Mmh. Et d'ailleurs, une des statues d'Hermès en pilier hermaïque la plus fameuse s'appelle Propylaios. Elle a été sculptée par Alcamène au 5e siècle, parce que justement, c'est l'Hermès des portes. Et cette forme a été aussi utilisée pour représenter Hercule, en compagnie souvent d'Hermès d'ailleurs, tous les deux, puisqu'ils sont tous les deux les dieux des gymnases, oui. Du sport, de la culture, des gymnases. Et on a ensuite beaucoup de Dionysios, que ce soit les Dionysios archaïques, c'est-à-dire barbus, hein, un dieu mature, ou plus tard jeune. Et donc, chez les Romains, cette forme de sculpture, de pilier hermaïque avec la tête ou le buste, se multiplie littéralement, on en trouve partout, avec souvent Dionysos et les membres de son cortège. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Mais on peut trouver aussi des portraits d'hommes célèbres. Voilà,
par exemple, des
poètes, oui. Des philosophes, des hommes politiques. Et on peut trouver aussi des portraits d'empereurs, hein, également romains. Donc ça, c'est une forme qui se multiplie. Il faut dire aussi que c'est une forme qui est très pratique. Vous pouvez la mettre contre un mur. Vous pouvez vous en servir comme balustrade, puisque en fait, tous ces petits éléments, vous pouvez les mettre à la queue de loup, vous les accrocher. Alors, ils ont au niveau de la hauteur des épaules, de ce que seraient les épaules, un trou, en fait, une mortaise. Et on mettait, en fait, une barre en pierre et on les accrochait les uns aux autres pour faire une balustrade, par exemple. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet de faire un tour de piscine, un tour de péristyle. Enfin, c'est très, très pratique. Et donc, ces petits objets, on en trouve aussi bien dans les maisons.
Alors, petit, ça veut dire que ça faisait un mètre
Oui, à peu près. Voilà. Oui. Alors, après, il y en a certains qui sont un tout petit peu plus grands, mais ce n'est pas la norme, hein, oui. Loin s'en faut. Je sais plus ce que je voulais dire...
Là où on en trouve.
Alors on en trouve, oui, on en trouve évidemment dans les bâtiments publics, forcément, dans les théâtres notamment, le long du pulpiton, vous savez, le mur de scène par exemple. On en a retrouvé aussi dans un bateau de Némi, qui a été retrouvé au large de Némi, pour faire le bastingage de la balustre.
D'accord.
Oui. Alors c'est tout fin, c'est en bronze. Alors que ceux dont je vous parle sont en pierre, bien entendu. Mais donc c'est une forme qui est très adaptable. Voilà, et donc au musée, il y en a quelques-uns qui sont exposés dans la vitrine de la vie quotidienne. Et donc vous en avez un qui montre un silène et un satyre en marbre, et une autre qui représente probablement une caricature, enfin une tête de jeune femme avec un ruban et un diadème qui est caractéristique aussi.
Alors c'est sur ce beau visage et cette belle œuvre que nous allons terminer l'émission avec notre spécialiste de la sculpture au Musée de la Romanité, Cécile Carrier, qu'on remercie beaucoup.
Eh bien je vous remercie, au revoir à tout le monde.
Sur Radio Alliance Plus, la musique d'ici, d'ailleurs.